之后就更努力。
看到没？这个证明了。
Ah oui, voyez, deux catégories différentes.
Okay.
Alors, je vais simplement vous rappeler l'essentiel, c'est le premier point, et ensuite nous aurons à classer à chaque moment des analyses les différents points de vue.
Voilà, la Torah nous raconte, dans le développement de l'histoire de l'humanité, un phénomène important. Il y a eu un temps où l'humanité était une. Dans les termes de la culture contemporaine, on appelle ça l'universalité de l'homme, l'universalisme, étant la doctrine de l'universalité de l'homme. C'est une conscience très profonde de l'enseignement hébraïque qu'il y a une seule humanité. Il n'y a pas des races humaines à l'échelle générale. Les blancs, les noirs, les jaunes, c'est la même humanité. Okay? Il n'y a pas des espèces humaines, voilà ce que je voulais dire. Mais là, c'est une conscience très aiguë. Le mot « homme » ne se met pas au pluriel en hébreu, ni non plus en général dans les langues sémites. En tout cas, c'est comme ça en arabe aussi. En français, par exemple, on dit « les hommes ». Il peut y avoir idée d'un pluriel de l'identité humaine, de base. En hébreu, comment vous allez dire ça ? Ma ? Non, non, mais... Très bien. On dit les fils de l'homme. Il y a la notion que tous les hommes ont le même père. Il y a une souche unique, voilà ce que je veux dire. Je vais donner les termes techniques. Je pense que c'est ça les mots, si je n'ai pas oublié entre temps. Je crois que c'est ça. Vous avez deux thèses possibles. Que tous les hommes, vivants ou à naître, descendent du même souche. C'est le monogénisme. Okay? Polygénisme, ça veut dire qu'il y aurait des souches différentes et donc des humanités différentes. Moi, je peux vous parler pendant des heures de cela, et le nombre de doctrines qui a pu être inventées à ce sujet. Que par exemple, l'homme descendant du singe, alors les blancs descendraient, si je me souviens bien, de l'orang-outan, les noirs des gorilles, et puis les jaunes, je ne sais plus, des chimpanzés. Voilà. Oui. Ou c'est l'inverse. Je crois les blancs des chimpanzés. Les... Hein? Vous avez entendu ces ch'touillottes-là? Bon. Ce que nous enseigne la Torah, c'est que c'est la doctrine du monogénisme. Encore une fois, quelle est l'importance de cet enseignement? Elle est au niveau moral. Mais il y a tout de suite un critère d'évaluation morale qui apparaît. Okay? C'est-à-dire, quelles que soient les apparences, nous savons, d'après l'enseignement de la Torah, que les différents grands embranchements humains sont des embranchements de la même souche. Okay? Bon. Et il y a une diversité des lignées. En particulier, nous l'apprenons à partir de Noah, où l'humanité se distribue en trois embranchements, Shem, Ham et Yafet, les Japhétiques, les Sémites et les Hamétiques. Bon. Hein? Ils sont des Japhétiques. Oui. Hein? Il y a les trois grands embranchements de Shem, Ham et Yafet, les Sémites, les Japhétiques, et vous pouvez mettre les blancs et les jaunes, okay, et les hamitiques, et les noirs. Mais enfin, c'est pas ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le critère dominant de cette diversification des lignées humaines, selon la Torah, est linguistique avant d'être biologique. Et nous verrons aussi pourquoi la langue est tellement importante pour la désignation de l'identité. Or, la Torah nous raconte que, après le développement des différentes grandes familles humaines à travers la diversification des trois lignées, oui, à partir de Noah, eh bien, ça se ramifie et elle nous dit avec un chiffre que je ne voudrais pas dire symbolique. C'est un terme que je vais être obligé d'employer parfois. Mais rappelez-moi une fois que je vous explique dans les cours du dimanche en philosophie, pourquoi ce terme de symbole ne fait pas partie du vocabulaire hébreu. Mais disons, le chiffre symbolique de la diversité, de la multiplicité plus exactement, c'est le chiffre de 70, pareil en hébreu, et qui reviendra très souvent. Okay. Alors nous allons prendre comme postulat de base que la multiplicité humaine a toujours pour indice 70. Okay. Alors on nous parle de 70 nations de base et de 70 langues de base. Vous connaissez ces expressions déjà. Shivim Lashon, Shivim Umot, Shivim, c'est l'indice de la multiplicité. Et quand nous arrivons au verset que je vous ai cité en référence, alors on apprend que bien qu'il y ait diversité, il y avait unité. Je veux dire que il y avait universalité. Cela s'indique dans le verset que vous étudierez par le fait que l'humanité tout entière possédait la même langue. Et dans l'enseignement biblique, dans les catégories bibliques, dire que l'humanité avait la même langue, c'est dire que l'humanité est une. Parce que pour la Bible, ça nous l'apprendrons dans notre étude, pour la Bible, ce qui définit l'homme, c'est sa parole. J'ai fait une fois allusion à cela. Le caractère spécifique de l'identité humaine, c'est la parole. Vous vous rappelez la discussion qu'on a eue sur le langage, hein? Et cette unité de l'homme, cette universalité, a éclaté, elle a disparu. Il y a une révolte contre le principe d'unité, et l'unité disparaît, il reste la multiplicité des nations. Donc, à partir de ce moment, l'histoire, c'est l'histoire d'une diaspora universelle, d'égoïsme. Monsieur ? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans cette diaspora des 70 Goïm, il n'y a pas Israël. Israël va apparaître plus tard, à partir d'Abraham, avec un long effort de sélection d'identité qui amènera jusqu'à Jacob qui devient Israël. Okay? Vous voyez, Israël ne fait pas partie, selon l'histoire de la Bible, des Goïm, les nations. Sans mettre rien de péjoratif dans ce mot. C'est dans les langues juives tardives que le mot Goï a pris un sens péjoratif. Okay? Mais le sens étymologique, c'est une nation, un goy. Au pluriel, goy. Les goyim, les membres des nations. Vous savez d'ailleurs que le sens, le mot technique que l'on emploie, technique, c'est pas le mot, enfin le mot savant que l'on emploie, est dérivé du latin, c'est les gentils, avec un grand G. Ça vient de gentillesse, les gens, okay? Les nations. Alors, comme ils ont été très méchants, ces gentils-là, Goy, ça prend un sens péjoratif dans les langues juives, okay? Mais dans l'hébreu de la Bible, il n'y a rien de péjoratif. Les membres de l'humanité, chacun selon sa nation. Okay?
On a dit dans les pays les Goy étaient
les
musulmans,
les
musulmans ne
faisaient
pas les Goy.
C'est juste. J'ai dû vous le dire moi-même. Okay? C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'habitude de dire les Goy pour dire les musulmans, parce que nous étions entre les musulmans et les Européens, et c'était les Européens qu'on appelait les goïms. Les autres, on les appelait pas, ils venaient tout seuls. Mais il y a effectivement un cas particulier, si vous voulez, des musulmans par rapport à la sensibilité juive, mais ils sont quand même objectivement des goïms comme les autres.
Okay? Hein?
Oui, ils font partie des 70. Et on reparlera ça après. C'est pas si simple que ça. Ils font partie sans faire partie. Mais ça, c'est les deux rivalités d'Israël sont entre ces 70 nations et Israël. C'est-à-dire l'Église d'un côté et l'Islam de l'autre. Bon. Mais ça, pas aujourd'hui. Hein. Je vais aller d'abord les bases. Top. Alors, qu'est-ce que je disais? Et voilà donc ce qui se passe. Une catastrophe. Une catastrophe qui fait que l'humanité tombe en diaspora. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce qu'à partir de ce moment-là, L'histoire des nations, c'est l'histoire des rivalités des nations entre elles. L'histoire, c'est l'histoire des guerres. Vous suivez ? Oui, se passe au niveau collectif des nations ce qui s'est passé à l'origine de l'histoire humaine ce matin avec Caïn et Abel au niveau des individus. Vous voyez ? Alors, cette époque s'appelle, vous le retrouverez dans votre plan, Dora Palaga, ou Dora Pelaga, suivant les textes. Et la racine Peleg. Ça veut dire se diviser. Vous connaissez le mot, par exemple, Miflaga, un parti. Vous voyez, Miflaga. Palga, en araméen, c'est une partie. Chelek. Peleg, alors il y a ici l'idée d'un éclatement en morceaux. Vous suivez ? Et littéralement, le mot français diaspora vient du grec, l'humanité a diasporé. Vous avez étudié dans en botanique ou en biologie les spores d'une cellule. Quand la cellule éclate et que les spores diasporent. Vous voyez ? Ça diaspore. Okay ? Alors c'est l'humanité qui est éclatée en diaspora. Vous suivez ? Vous voyez donc le réajustement de concept qu'il faut faire. Okay ? Est-ce que c'est bien compris ? Bon. Alors, je vais vous donner rapidement un certain nombre d'implications de cette première remarque. Et encore une fois, Israël ne va apparaître que plus tard dans le récit biblique avec un plan de l'histoire d'Israël qui implique une relation avec cette diaspora des Goyim et qui implique la situation d'exil de diaspora d'Israël lui-même, mais qui est une situation seconde et qui s'est toujours connue comme nécessaire puisqu'il y a un plan de la Providence, mais provisoire. Et c'est quand le provisoire dure longtemps qu'il se fait prendre pour le définir. Vous suivez ? Est-ce que c'est clair ? Vous voyez comment, a priori, quelqu'un qui a étudié la Bible ne peut même pas entendre les thèses diasporistes. Vous suivez ? Quelle que soit la manière dont elle se justifie, dont elle se plaide.
Est-ce qu'on peut penser que la situation de diaspora pour l'humanité, c'est une situation normale ? C'est-à-dire comme Caïn et Abel ne pouvaient pas s'entendre, former un universalisme, ça ne peut pas exister.
Je dirais normal dans le sens de connaturel, okay, oui, mais catastrophique. Et à l'échelle individuelle, les membres des Goïm qui ont réfléchi à ce problème ont refusé cette anormalité-là, cette normalité-là, si tu veux. C'est ce que nous appelons les chassidés ou montants en larmes, okay, qui perçoivent bien qu'il y a quelque chose de catastrophique, d'anormal. Okay. Et vous suivez de ce que je veux dire ? Ce sont les universalistes chez les Goïm. Et il y a beaucoup d'universalistes authentiques chez les Goïm qui ne supportent pas cette fragmentation d'humanité parce qu'ils y voient, à juste titre, la cause de l'anormalité de l'histoire humaine, que l'histoire humaine est faite de ces guerres sempiternelles et impitoyables et qui transforment le monde des hommes en enfer. Ken n'a aucune idée tout ce que les guerres depuis l'origine du monde ont prenait comme souffrance sur la terre. C'est inouï, c'est inimaginable. Ken ? Alors comment accepter que ce soit normal ? Vous suivez ? On peut découvrir les mécanismes de ces phénomènes. Ça ne veut pas dire que c'est normal. Okay. Ce sont des mécanismes de nature. L'être naturel fonctionne comme ça. La loi de la jungle, okay. Il y a une science assez récente qui s'appelle la polémologie, la science de l'agressivité, la science des conduites de guerre, et qui montre qu'effectivement c'est une donnée de nature. Nous sommes dans un monde où le plus fort mange le plus faible, okay. Et sinon il ne mange pas. C'est autre chose. C'est-à-dire que si les peuples s'organisent, ils s'organisent d'abord dans une ligne de défense. Enfin, j'ai parlé comme juif, ça va à Ghana, okay, ou dans une ligne d'agressivité, attaque et défense. Oui, et c'est pourquoi le premier modèle de la société humaine, c'est l'armée. Donc je vous l'ai dit, ça va, vous vous rappelez, okay.
Il y a un bon exemple avec le peuple palestinien, dont on entend parler en tant que peuple, que dans cet appétit de défense, d'agression, de guerre, enfin, c'est pas...
Je pense que c'est un peu différent.
Et la notion de peuple palestinien, nation palestinienne, est une nation politique récente. Mais il y a la nation arabe. Okay. C'est une fraction de la nation arabe qui s'instaure comme telle. Et elle a ses problèmes vis-à-vis d'Israël. Bon. Mais il y a la nation arabe, il y a la nation perse, il y a la nation, je ne sais pas moi, kurde. Mais voilà, que dès qu'il y a le phénomène des nations, inévitablement nous voyons des conflits d'intérêts et des guerres perpétuelles. Okay. Bien. Rapidement, hein, parce que je vous avance. Hein? Okay. Mais c'est le point de départ de ce... Non, on la nomme comme ça. Cette génération où ça a commencé s'appelle Dor HaBalala. Dor, ça veut dire la génération de... Et nous sommes encore dans ce même problème. Okay. Et alors, vous verrez dans vos lignes et dans les tableaux hein, que ce phénomène apparaît au temps de Péleg. Je ne vois pas ici, il est ici-là. Péleg, le voilà. Hein? La 15e génération. Oui, la 15e génération. Et vous avez là Dor HaBalala. Quelque chose comme ça, hein? Bon, vous situerez vous-même, hein? Vous voyez, vous avez vos... Voilà, vous l'avez là, hein? C'est en l'an...
1996.
C'est ça, 1996, à partir de la dernière chose. Presque un peu avant 2000, ok? Oui? Bon. Alors, est-ce que c'est bien compris? Et vous voyez qu'il va se passer beaucoup de temps avant que n'apparaisse Israël. Donc Israël ne fait pas partie de ces 70 nations de base issues de cet éclatement de l'universel humain. C'était une des lignées de Shem, Baro, mais il n'y a pas Israël.
D'accord.
En tant que groupe social.
Il y avait Shem.
Oui, il y avait les descendants de Shem, et en particulier Éver. Mais c'est à partir d'Abraham que ça émergera au niveau d'une identité à part. C'est clair? Je crois que nous l'avons étudié ensemble, que cette identité dérive de l'identité araméenne. Non, c'est pas avec vous? Non, quand on arrivera à l'histoire d'Abraham. D'accord. Bien.
Israël n'est pas paru comme nation qu'elle a émergé d'une...
Elle ne fait pas partie de la multiplicité humaine dont je vais vous parler. Dont je vous parlais même. Elle ne fait pas partie de ce qui va définir les nations qui sont, elles, en diaspora. Mais vous avez compris la première... Vous voyez, nous en avons parlé souvent, je vous l'ai dit dès le début de l'année, d'une catégorie biblique qui est énorme quand on l'entend sans la comprendre. Que dans l'humanité, un nombre considérable d'individus et de consciences humaines, vous avez Israël d'un côté et les nations de l'autre. C'est inouï comme catégorie. Israël et l'égoïme. Okay? Alors voilà, premièrement, d'où ça vient. Que dans tous les cas, Israël ne fait pas partie des goyim. Vous voyez, nous touchons de là un phénomène, du doigt un phénomène, par là, qu'il va falloir expliquer abondamment. Le caractère irréductible de l'identité humaine d'Israël par rapport aux goyim. Il y a quelque chose d'irréductible. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui ne peut pas se ramener à que les goyim ressentent, que Israël ressent, mais qu'il faut élucider. Vous suivez? Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Bon. Et première implication, il reste dans la conscience de l'humanité, pour le moment il n'y a pas encore Israël, hein. Il reste dans la conscience de l'humanité, et surtout chez ceux que j'ai appelés tout à l'heure Hassidé ou Mouta Olam, les hommes de bonne volonté, la nostalgie de reconstruction de l'universel humain. Il y a un rêve de l'universalisme, et qui est une mémoire, on se rappelle ce qu'on a perdu. Une sorte de nostalgie qui est restée là et qui travaille dans la conscience de l'humanité. Et lorsque ce rêve de reconstruction de l'universel, qui est à la base de tous les grands mouvements universalistes, apparaît, il est authentique. Bien. Et il peut apparaître chez le grec, chez le romain, chez n'importe qui. Bien. C'est l'accès à cette conscience qu'on a perdu l'essentiel et qu'il faut le reconstruire de telle sorte de résoudre le problème de l'histoire humaine, retrouver l'universel. Vous me suivez ? On va voir tout à l'heure. Okay. Pour le moment, il n'y a pas encore Israël. Pensez le problème avant que n'apparaisse Israël. Donc, à plus forte raison, les Juifs, ils sont tardifs par rapport aux Hébreux. Vous suivez ? Bon. Et je vais vous donner un petit exemple. Vous ouvrez une parenthèse sur le problème de la langue unique. L'espéranto ? Ah, tu vois. C'est un langage... Il y en a plusieurs, d'ailleurs. J'ai oublié les noms. Il y a plusieurs tentatives. Oui, ça va dans le sens de cette exigence dont je vous parle, mais tout le monde sait très bien que c'est artificiel et que ça mènera à nulle part. C'est très sympathique comme exigence, mais c'est utopique. Je vais prendre le problème de la langue unique à un tout autre niveau. Il y a, parallèlement donc à ce terme de la reconstruction de l'universel, il y a la recherche non pas d'un langage de communication qui serait unique, mais de ce que j'appellerais la langue unique, qui a été donc perdue à ce moment-là, qui est restée plus ou moins clandestine dans toutes les langues, okay, mais avec des niveaux de clandestinité très profonds. Et vous êtes quand même habitué à parler plusieurs langues, plus ou moins. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il est nécessaire qu'il existe une langue unique derrière ? Parce que sinon, on ne pourrait pas traduire de l'une à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? En réalité, ce n'est jamais les mêmes notions. Et si vous avez fait des études de littérature comparées assez profondes, vous saurez qu'en fin de compte, on ne peut jamais traduire un texte d'une langue à une autre. Okay? On peut toujours en donner une interprétation dans votre langue, mais dans tous les cas, il faut le penser dans les deux langues pour pouvoir l'exprimer dans une autre langue. Mais que tout se passe comme si on passe par une troisième langue inconnue. Okay? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Tout se passe comme si on passe par une troisième langue inconsciente. Okay? De telle sorte qu'on puisse retrouver.
Si par exemple on veut penser, traduire d'une personne qui parle une langue X et une langue Y, et nous on veut prendre de départ une langue Z, on est obligé de penser par notre langue pour reparler, pour traduire.
Aussi, parfois, aussi. Mais ça changerait au problème. Dans tous les cas, il y en a encore une plus haut qui fait la racine. Donc. Bon, réfléchissez au problème de traduction. Okay. Mais il ne reste pas moins que toute cette réflexion est sur l'écran de l'intuition que l'humanité est une. Okay? Mais en réalité, tout se passe comme si il y a des manières d'être homme incompatibles. Le signe en est la rivalité des nations. Vous devinez où va apparaître l'espérance messianique, okay? À un certain moment de l'analyse. Mais pour le moment, il n'y a pas Israël, il n'y a pas d'espérance messianique. Il y a l'égoïme et leur recherche de l'universalisme. Alors, je voudrais vous décrire deux lois qui gouvernent ce phénomène et qui n'ont pas d'exception. La première loi, c'est le fait que chaque fois qu'une nation, à tour de rôle, a pris en charge ce rêve de l'universel, au point de départ, le rêve de l'universel est authentique et pur, dès sa concrétisation au niveau politique, ça se change en impérialisme. Et quelle est la différence ? Et vous verrez qu'il n'y a pas d'exception. Prenons un exemple qui vous est familier, la Révolution française. L'histoire a fait que, à cette époque, c'est la nation française qui a pris en charge le rêve de l'unité de l'humanité. Okay ? Et c'est parti de la Révolution française. Okay ? Et il n'y a pas de doute que le rêve, l'idéal, disons, était authentique et pur. Ce n'est pas pour rien que l'humanité entière a été fascinée par ce qui s'est passé à cette génération de l'histoire de France. Okay. Il y a eu une espérance de l'universel humain à partir de Paris. C'est clair ? Bon, quelques années après, c'était l'Empire français. Et quelle est la différence ? L'universalisme, c'est une unité de l'ensemble de l'humanité, chaque nation gardant sa dignité propre et son égalité à travers la dignité, à travers l'unité universelle. L'impérialisme, ça consiste à imposer aux autres sa manière d'être. Vous voyez ? Mais je ne veux pas dire que les universalistes sont des impérialistes avoués. Pas du tout. Les universalistes, au niveau du rêve humaniste, sont absolument sincères. Leur rêve est authentique. Mais voilà qu'il y a une fatalité de la réalité qui fait que, dès que ça se concrétise au niveau politique, sociopolitique, ça tourne à l'impérialisme. Deuxième grand exemple qu'on pourra prendre, la révolution d'octobre, la révolution socialiste, okay, qui a immédiatement basculé dans l'impérialisme soviétique. Okay. Alors, essayez d'expliquer le phénomène. Le phénomène est clair. Okay. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi c'est important pour nous, juifs, de savoir qu'il n'y a pas d'exception. Chaque fois, on y a cru. Hein. Chaque fois, on y a cru. On s'est dit, cette fois, c'est la bonne. Okay. Et là, on verra la deuxième règle. Que dans cet universalisme, il y a place pour tous, sauf pour les juifs, et pourquoi ? Revenons donc à la première règle. Eh bien, tout simplement parce que chaque nation a emporté avec elle, dans cet éclatement de Dora Pelaga, une dimension possible du génie humain. Et chaque nation est géniale pour elle-même. On peut refaire l'humanité à travers n'importe quelle nation. Par exemple, si vous avez connu la culture universelle dans son visage français, eh bien, c'est quand même la culture universelle que vous avez connue dans son visage français. Mais d'autres l'ont connu dans un visage anglais ou allemand, etc. Vous voyez ? C'est-à-dire, chaque nation est géniale pour elle-même. Mais elle ne peut concrétiser politiquement, sociopolitiquement, que son génie national. Dès qu'elle se fait le véhicule du rêve de l'universel, alors il y a fatalité de l'impérialisme. C'est-à-dire, comment dis-je dire ? C'est une... J'enlève le mot fatalité. Enfin, c'est pire que ça. Il n'y a pas moyen que ce soit autrement. Parce que le véhicule est trop particulier. Il ne peut que s'exprimer à sa manière. Vous suivez ? Exemple, l'universalisme français, qui devient tout de suite l'impérialisme français. Sous la Libye des grands slogans idéaux, idéalistes de l'universel. Par exemple, avec quelle naïveté les colonisateurs français étaient persuadés d'apporter la civilisation universelle aux pays colonisés. Mais ils leur imposaient leur propre impérialisme. Vous suivez ? On a enseigné aux petits Sénégalais, nos ancêtres les Gaulois, avec une naïveté énorme. Mais la naïveté la plus grande, ce n'était pas celle des Sénégalais qui n'y comprenaient rien, c'était celle des Juifs nord-africains qui y ont cru. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair ? Et qui continue à y croire. Et je ne sais pas si j'ai raconté à la petite Abimel que un de mes derniers cauchemars avec mes co-religionnaires de France. La grande mode aujourd'hui, c'est d'appeler les enfants juifs avec des noms des rois de France. Alors vous avez déjà des petits Clovis. Oui, oui. Des juifs, oui, Clovis. Par exemple, oui. Et puis oui, des choses beaucoup plus farfelues. Les modes, c'est les modes. Mais cette espèce de... Je ne parle pas de la mode, qui est un phénomène, bon, qui se comprend pour lui-même. Mais cette espèce de naïveté, c'est plus que la naïveté, de s'authentifier comme juif français en donnant à son fils, pas un nom hébreu, mais un nom des rois de France du temps de Dagobert. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors imaginez un petit juif qui s'appelle Dagobert. Mais ça se passe dans ma famille en France. Hein. Et alors, ça dépasse les niveaux de toute indignation possible. D'assister à l'indignation des juifs français qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment des hébreux d'ici les regardent comme des fous. Ils sont indignés de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, vous voyez jusqu'où ça peut aller ? C'est exactement le colonialisme. Qu'est-ce que c'est que le colonialisme ? Ça consiste à vouloir continuer avec les enfants des autres. C'est ça le colonialisme. C'est clair ? Bon. Ma ? Par exemple, oui, par exemple. Non, mais ce qui est dramatique, c'est qu'on y croit. Bon. Hein? Ah, c'est du colonialisme réussi. Ça veut dire que la culture française a réussi à coloniser des petits juifs. des petits juifs. Elle les a colonisés. Au point qu'elle n'a même plus à leur imposer. C'est supposé résolu. Hein? Oui, d'accord. Mais ça, c'est le droit d'être, c'est son droit d'être impérialiste. Seulement, ce que je mets en évidence, c'est la naïveté des colonisés. Vous voyez le drame? C'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on y a cru, hein? Tu parles. Okay. Eh bien, eux, ils savaient que c'était pas vrai. Les vrais descendants de Gaulois savaient très bien que c'était pas vrai. C'est ça qu'il faut vous mettre dans le crâne. Ils savaient très bien que c'était pas vrai. Et ils nous ont toujours regardés comme des indigènes. Vous vous rappelez que ça veut dire indigène? Donc, bon. Alors, je reviens au problème. Hein? Bon, mais ça fait rien. Et eux sont eux-mêmes téléguidés à différents niveaux par les descendants des Gaulois. Ceux de l'île de France qui ont imposé leur langue à toute la France et aux colonies. Bon, alors je reviens au problème. Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire que, inévitablement, le véhicule national propre à chaque groupe humain va faire écran entre le rêve de l'universalisme et la réalité sociopolitique. C'est inévitable. Aucune nation ne peut être véhicule de l'universalisme vrai. Vous voyez pourquoi, dès l'origine, la tradition de la Bible va nous parler de cette impossibilité. L'unité humaine ne se fera pas, ne se refera pas à partir d'égoïsme. Je vais très vite, mais je pense que c'est clair. Hein? Ce que je veux signaler de la part des Juifs, c'est, j'ai appelé ça naïveté, on pourrait trouver un autre mot, une naïveté perpétuelle de croire, bon, ça n'a jamais marché jusque-là, mais peut-être cette fois, ça sera la bonne. Vous y êtes? C'est une naïveté éperdue. Et cette fois, ça sera la bonne, ça a été, et c'est la plus grande déception des Juifs, ça a été la Révolution russe. On s'est dit, bon, la Révolution française, on y a cru, comme c'est pas possible. Demandez aux Alsaciens, ils vous diront encore. Ils étaient encore beaucoup plus nationalistes français que les Algériens, c'est pas peu dire. Ils le sont toujours, oui, je veux dire, les Algériens aussi, Habib.
C'est la région qui voit le plus que vous avez,
la nation et l'État, oui. C'est, t'as raison. Non, mais je veux dire, c'est d'une sincérité personnelle dont vous n'avez aucune idée. Nous avons toute une colonie de Juifs alsaciens en Israël, en particulier à Jérusalem, et vous n'avez aucune idée à quel point, même devenus farouchement sionistes, hébreux, israéliens, ils ont gardé les Algériens aussi d'ailleurs, hein, cette espèce de noblesse, nous sommes les patriotes français de l'Alsace, nous sommes les patriotes français de l'Algérie. Je ne parle pas des Marocains et des Tunisiens, c'est autre chose. Hein. Dis, madame Mère, elle n'est pas comme ça. Je te garantis que si elle était comme ça, elle ne serait pas là. Bien. Bon, il ne faut jamais généraliser, okay, mais ça vous apprendrait dans l'histoire des communautés. Le patriotisme local. Okay. Ça, je parlerai après. Quand les Juifs ont repris en charge la diaspora humaine, alors ils s'y sont donnés corps et âme. Il y a de ces phénomènes inouïs. Je ne sais pas, je vais vous parler des Juifs belges. Mais on va raconter une histoire que vous connaissez. Une histoire belge, mais qui est très typique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté. Et ça m'a beaucoup frappé quand je l'ai entendu, parce que c'est exactement ça. Okay. Au fond, il faut savoir que les seuls Belges authentiques, c'est des Juifs. En réalité, en général, d'origine polonaise d'ailleurs. Je vais vous raconter comment. Okay. Parce que vous savez qu'il y a un conflit en Belgique entre les Wallons et les Flamands. Vous avez compris la suite. Alors un jour, un reporter dans la rue a demandé aux gens, toi t'es wallon, toi t'es flamand, et puis il tombe sur un juif d'origine polonaise, et dit, non, moi monsieur, je suis belge. Voilà, c'est clair. Alors il y a eux et le roi de Belgique. Alors réfléchissez profondément à ça, et vous verrez que ça se passe dans tous les pays juifs, dans tous les pays où il y a des juifs, et que c'est extraordinairement impressionnant comme naïveté. Ça y est, c'est clair. Parce que les vrais Belges, eux, sont ou wallons ou flamands. Alors qu'est-ce qui reste comme Belges authentiques? Les Juifs.
Est-ce que vous avez des différences de
Oui.
Il y a aussi une histoire de juifs
voilà. C'est du même genre. Mais sachez bien que ce patriotisme, j'ai parlé de l'Alsace tout à l'heure, c'est pas pour rien, ce patriotisme devient aussi local. Et vous allez avoir un espèce de patriotisme juif. Je connais beaucoup de juifs qui sont autonomistes alsaciens d'ailleurs. Et en général très pieux. Philine et tout, mais autonomistes alsaciens. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a ce patriotisme-là, qui est un patriotisme second, voire parfois, à la tierce, jusqu'au patriotisme local. Et vous allez avoir des juifs qui se considèrent comme authentiquement corses. Leur manière d'être français, c'est être corse. D'autres, mais oui, ça y est, c'est arrivé. Okay. L'amicale de la jeunesse juive d'Ajaccio. Et lorsqu'il pense à l'empereur, alors oui, je trouve ça va. Okay. Bon, nous allons voir ça tout à l'heure. Et on revient de loin. Hein. Et alors, il ne faut pas. Ce qu'il faut, c'est voir ça dans l'ensemble. C'est qu'il suffit de découvrir le patriotisme second des autres juifs pour comprendre la nature du sien propre. Tant qu'on considère le sien propre, okay, eh bien, on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre relation à l'universel s'est faite par ce visage-là. Vous suivez? Pour un juif français, l'universel humain, cohérent, c'est l'universel de visage français. Voilà pourquoi la fascination du juif pour le visage de son goy en particulier. Et puis ça peut aller jusqu'au patriotisme local. Voilà. Et un véritable Alsacien, comme tout le monde sait, c'est pas Strasbourg, c'est Mulhouse. Ou Forbach. Non, Forbach, c'est déjà autre chose. Toi, tu es d'où? Haguenau, oui. Ça, j'ai oublié. Ça, c'est le patriotisme alsacien de l'avenir. Et alors, revenons donc au problème. Chez les Sfaradim, c'était la même chose. J'avais allé confondre un Espagnol et un Portugais. C'est la guerre civile, tout de suite. Oui. Oui, mais et très rapidement ça se double. Oui, je sais bien. Très rapidement ça se double. De, moi je suis de Lyon, toi tu n'es que de Marseille. Oui, quelque chose.
Non, bon. J'étais à Marseille, mais pas à Capilla,
voilà. Bon, bien sûr, il y a au fond un phénomène humain pur et simple. Mais ça, c'est sûr. Mais ça prend des dimensions dans notre problème qui deviennent kafkaïennes. Pour pas trouver notre. Alors je reviens à l'analyse. Vous voyez pourquoi, très rapidement, vous allez trouver cette loi qui n'a pas d'exception. Le rêve de l'universalisme chez les goyim est authentique. La réalisation est impossible. C'est clair? La dernière preuve, c'est l'ONU. Vous n'avez aucune idée. L'espérance humaine à la fondation de l'ONU. D'ailleurs, je me rappelle, à l'armistice de la dernière guerre mondiale, j'étais d'Afka à Marseille, en transit pour aller en permission de convalescence en Algérie, au moment où s'est déclenchée la révolte des Algériens d'ailleurs. C'était à peu près cette époque. Et il y avait une liesse dans la ville. On avait entendu dire, ça y est, l'Allemagne est vaincue, il n'y aura plus de guerre, on va fonder l'ONU. Je ne sais pas si vous imaginez quelle espérance il pouvait y avoir. Bon, eh bien, l'ONU, on y a cru. Et puis voilà, il se dévoile qu'il y a une impossibilité par fatalité. Oui, par exemple, mais la Société des Nations, c'est rien, c'est de l'ONU. J'ai vécu les deux, j'aurais dû. Et la Société des Nations, c'était restreint. C'était un petit machin, comme dirait De Gaulle. Mais l'ONU, c'était le vrai machin. Non, 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 le rêve était tout autre. Tout autre. Je me rappelle très bien de ces moments-là, et pour ceux qui les ont vécus, etc. Et il y a eu une espérance colossale. Okay. Et puis finalement, on s'aperçoit, jusqu'à quelle heure vous allez? 5h04. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a une impossibilité, que De Gaulle d'ailleurs a très bien pressenti. De Gaulle a expliqué le phénomène des nationalités, bloc. vous rappelez de son analyse au moment de la Chine, il y a déjà un peu longtemps, mais quand il avait prédit que la Russie et la Chine s'opposeraient, alors que c'était le bloc socialiste. Bon. De Gaulle était un génie à sa manière, il faut savoir. Un grand homme. Dommage qu'on l'a eu contre nous. Enfin, dommage pour les Français.
Et...
Ah non, 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 ça c'est dans les faits, dans les faits. C'est la conséquence du Dorapalaga. Le phénomène des nations est entaché d'une malédiction. Impossibilité de l'unité. Vous suivez? Et vous voyez ce que l'histoire a montré. Je pourrais vous énumérer tous ces grands mouvements de tendance universaliste. Ils sont tous transformés en impérialisme, très rapidement, quelle que soit la résistance des hommes de bonne volonté qui ont été accusés d'être déviationnistes. Vous voyez? Par exemple, dans le mouvement socialiste, quand le mouvement socialiste, en tant que société soviétique, est devenu impérialiste, les trotskistes ont réagi. Mais les trotskistes se sont fait accuser d'hérésie, alors que c'était eux qui voulaient. Ensuite, après les trotskistes, il y a les sous-trotskistes, les maoïstes, les nouveaux maoïstes, en fait, ce que vous voudrez. Chaque fois, on essaye de retrouver le rêve pur, mais tant que c'est au niveau de l'idéalisme, c'est très pur. Dès qu'on fonde la société, on tombe dans le même handicap le véhicule de ce rêve est trop particularisé. Vous suivez? Oui, oui, c'est pas par hasard. C'est aussi pas par hasard. Je vais arriver tout de suite, je vais encore aujourd'hui arriver à la deuxième loi. Vous avez compris cette loi? Comment l'universalisme se transforme en impérialisme et qu'il n'y a pas d'exception. Et que là-dedans, la position des Juifs, c'est faire foi d'être séduit par la nouvelle tentative et d'en être la première victime. Vous avez remarqué? Ce qui m'amène à la deuxième règle. Et là aussi, il n'y a pas d'exception. Alors parfois, c'est par la mort douce, parfois c'est la mort violente, mais dans tous les cas, c'est l'annulation. Vous voyez, par exemple, à la Révolution française, c'était par la mort douce. Tandis qu'à la Révolution russe, c'est par la mort violente. Vous comprenez ce que je dis? Mais vous n'avez aucune idée, hein, le nombre de Juifs qui sont fascinés chaque fois qu'un mouvement de ce genre apparaît dans l'histoire. Que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit l'humanisme de la Renaissance, que ce soit le socialisme, la Révolution française, tout ce que vous voudrez. Okay? Et c'est, les Juifs poussent à la roue, tout de suite, comme tu as dit tout à l'heure. Et c'est normal, ils reconnaissent leur rêve hébreu, qui est d'une autre nature. Vous suivez? Qui vise à résoudre le même problème, mais par une toute autre stratégie. Est-ce que c'est clair? Et vous voyez comment les grands mouvements universalistes décèlent que l'obstacle sera les Juifs, que c'est un cas particulier. Et alors, au début, ils essayent de les absorber, et comme ce n'est pas possible, alors, ils les mettent à part. La deuxième règle est la suivante, c'est que théoriquement du moins, l'universalisme des Goïm a place pour toute identité, sauf l'identité juive. Et il n'y a pas d'exception. Et quelles que soient les déclarations de bonne volonté, dans tout type d'universalisme, ils sont à part les juifs. Par exemple, la Russie. La constitution russe est idéale. Même pour les juifs, mais la réalité politique, c'est tout le contraire. Oui. La constitution russe reconnaît toutes les nationalités de l'Empire soviétique. Elle reconnaît toutes les langues. Elle reconnaît, elle interdit l'antisémitisme. Et cependant, la réalité est tout le contraire. Okay. Alors, je vous laisse le soin d'analyser pour tout exemple que vous voudrez, et on pourra le reprendre en cours. Mais simplement, je vous donne la direction générale du problème. Et ceci se passe de l'origine. Il n'y a pas d'exception à ces deux lois. Premièrement, tout un universalisme est, dans son origine d'idéal authentique, j'insiste beaucoup pour pas que vous m'épreniez, c'est vrai que les hommes de la Révolution française ont rêvé l'universel humain. C'est vrai que les premiers socialistes ont rêvé l'universel humain. Chacun à sa manière. Okay? Et cependant, dès que ça se concrétise dans la réalité sociopolitique, ça tombe dans l'impérialisme. C'est la même chose. Je crois que, si vous voulez, vous avez l'exemple de la Révolution française ou de l'humanisme de la Renaissance. Okay? On a vraiment pensé qu'on allait offrir à l'humanité le type d'homme universel. En réalité, qu'est-ce qu'on offre à l'humanité ? Le Parisien, majeur et vacciné, abonné au gaz, et de temps en temps diplômé de la Sorbonne. C'était ça qu'on offrait comme type de universel humain. Okay ? Ou nantri du certificat d'études. Vous voyez ce que je veux dire ? Au point que n'importe quel homme qui n'entrait pas dans ces catégories-là était considéré comme barbare. À convertir, à civiliser, à franciser. Vous suivez ? Et là, on ne peut pas leur jeter la pierre. Il y a la réalité.